Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et mangas.
HongKongStyle.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce 26e numéro de Flashpoint consacré au mois d'octobre. Bon, on est un peu à la bourre, mais je pense que vous nous excuserez. Donc, aujourd'hui, c'est une émission assez particulière. Il n'y a pas Vinch, il n'y a pas Fabien, il y a Spectra, moi et Cédric. Et donc, Cédric, il va faire une petite pause sur le podcast, il va nous expliquer pourquoi. Donc, Cédric, c'est à toi, on t'écoute.
Ah, il faut que j'explique pourquoi je m'en vais. Alors, comme vous allez pouvoir l'entendre dans les chroniques, j'ai une petite baisse de régime avec DC en ce moment. Donc, je trouve que tous les numéros sont pas excellents et j'ai un petit peu de mal à les lire. Donc, je vais faire une petite pause pendant quelques temps, voir si ça s'améliore un petit peu par la suite.
D'accord. Donc, après, Cédric est susceptible de revenir à tout moment. Il est toujours dans l'équipe. Et donc, voilà, il revient quand il veut, il n'y a pas de souci. Vous allez bien, les gars?
Ça va, et toi?
Ouais, nickel, tranquille. Ouais. Ok, bon ben on va démarrer. Spectra, on te laisse faire ta rubrique habituelle avec les news ciné.
Allez, c'est parti. Donc on commence par deux films qui ont été ajoutés sur le planning de la Warner, des films dits a priori pour 2019 et 2020, des films encore tenus secrets, mais dans le tas il y aura certainement un Man of Steel 2.
Et sûrement un Batman aussi.
Et sûrement un Batman, ouais.
Il y a de fortes chances.
Ouais. Il n'est pas en tournage le Batman de Ben Affleck ?
Pas encore commencé le tournage. Probablement, bah, ça va spoiler les news d'après, mais selon Joe Manganiello, là, qui incarnera Deathstroke, le tournage il devrait commencer au printemps 2017.
D'accord. Ouais, donc déjà, il y en aura un des deux, ce sera pour ce créneau-là, et après, ouais, sûrement un Man of Steel 2, ouais, logiquement. Très bien.
On enchaîne avec donc un second trailer qui est sorti pour le film Lego Batman, second trailer que je n'ai pas regardé d'ailleurs. non mais il y a une raison à cela, c'est en général les films Lego et tout, enfin les trucs les plus drôles sont souvent dans la bande-annonce, donc je préfère pas trop me gâcher le plaisir et je me materai le film comme ça sans en ayant rien vu avant.
Cédric?
J'avais pas vu. J'ai vu aucun film Lego, donc je...
Ouais, c'est divertissant, après c'est pas fou, mais ça va, ça passe. C'est marrant un petit peu.
Ça occupe bien une soirée, ouais.
Ouais, voilà, en fond sonore, c'est pas mal. Ouais.
Ensuite, toujours dans la catégorie second trailer, on a eu le second trailer de Wonder Woman, que j'ai regardé par contre pour le coup, parce que les films d'ici, j'en ai plus grand chose à faire. Donc, trailer que j'ai trouvé pas dégueulasse, avec des idées plutôt sympas. Après, on verra l'exécution du film, parce qu'on a déjà eu la preuve que ça fait bien faire des bandes annonces, mais le métrage est un peu plus compliqué.
Cédric?
Je l'ai trouvé catastrophique.
Explique-moi pourquoi.
Les ralentis. J'ai l'impression que tout le trailer était au ralenti. Et je supporte plus les ralentis dans les films. Alors si déjà dans le trailer il y a que ça, alors j'ai trouvé ça catastrophique.
Ouais, donc sur l'effet de style t'as pas aimé, après hormis ça, le reste?
Ah bah le reste, l'histoire, ça a l'air d'être une histoire origin story Wonder Woman classique. Après moi je suis plutôt convaincu par Gal Gadot qui fait une jolie Wonder Woman, en même temps qui son impression de puissance est là, j'aime bien. Mais non, c'est la mise en scène dans la bande-annonce qui m'a fait un peu peur.
D'accord. On a appris que le compositeur de Wonder Woman, ce sera Rupert Gregson-Williams, qui s'est occupé de la BO de Tu ne tueras point. C'est pas un nouveau film, ça, qui vient de sortir?
Ouais, c'est le dernier Mel Gibson.
C'est ça, ouais. Qui a l'air pas mal en plus. Je l'ai pas vu encore. Il est sorti?
Oui, il me semble qu'il est sorti, ouais.
Je crois qu'il est sorti mercredi, au moment où on enregistre.
D'accord. Ouais.
Ensuite, on a une fois de plus un réalisateur qui quitte le film Flash, donc Rick Famuyiwa, qui quitte le projet pour des divergences artistiques.
Ouais. Bon, moi perso, je m'en fous. Enfin, Rick chouette là, c'est pas non plus Clint Eastwood. Donc après, on saura jamais vraiment les dessous de l'affaire. Mais vous pensez que ça sent mauvais, je pense.
Ça pue, ouais, moi je trouve, ça fait quand même beaucoup de départs dans l'univers cinématographique de DC ouais, moi je trouve que ça sent pas bon pour le film The Flash, quoi. Ça fait quand même le deuxième, hein, déjà.
C'est d'autant plus étonnant que la Warner est un studio réputé pour faire confiance à ses réalisateurs, est un studio vraiment de réalisateurs, plus qu'un vrai studio de studio, alors que là, il se comporte comme se comporterait la Marvel ou d'autres studios comme Sony ou Fox. Mais bon.
Après, il faut voir ce qu'il avait envie de faire aussi, hein. C'est ça le truc. Je sais pas trop, quoi. Si il partait un peu loin du truc de la mythologie de Flash, mais bon, après ça, on saura jamais vraiment la véritable histoire. Mais c'est sûr que s'il partait sur un truc qui avait rien à voir, peut-être qu'il s'est fait jarter. Enfin, peut-être que du coup, il est parti à cause de ça, quoi. Voyez ce que je veux dire?
Peut-être. On
Parce
saura
ouais,
jamais, on
mais...
saura jamais de toute façon. Hein, ça
Parce que.
c'est.
À un moment donné, là, c'était pas pour Wonder Woman, il y en a une, elle s'était barrée parce qu'elle voulait mettre un loup avec Wonder Woman pendant tout le film. Il n'y avait pas eu une histoire comme ça à un moment donné?
Un tigre.
Un tigre. Bon, voilà, moi je suis pas un conservateur, mais après, faut pas non plus partir trop loin, quoi. Ouais, bref, on saura jamais, quoi. Bon, après, moi, j'ai, avec ma mauvaise foi habituelle, ça me gêne pas que de voir ça, on verra bien ce que ça va donner dans tous les cas.
Ensuite, encore un départ. Donc pour le film Sandman, donc un de ses scénaristes, Eric Serra, qui quitte le projet. Et lui, il avait été scénariste sur le film Conjuring 2. Ayant vu Conjuring 2, pour le coup, je trouve pas que ce soit une perte immense.
Pas vu.
Ah, c'était horrible.
D'accord. Ensuite, on a Christina Hudson qui serait la scénariste du film Harley Quinn. Alors, je sais pas c'est qui cette femme. Je sais pas ce qu'elle a scénarisé jusqu'à maintenant.
Alors, elle a participé au scénario d'un film qui est sorti récemment, je crois, qui s'appelle Oppression, mais je ne pourrais pas vous en dire plus.
D'accord. Tu connais Cédric?
Non, je connais pas. Et moi, ça me fait peur, tous ces noms qu'on connaît pas à Warner. Ils font vraiment appel à des seconds, voire des troisièmes couteaux. Après, elle
Moi,
fera peut-être un excellent Harley Quinn.
moi après, je m'y connais pas trop en scénariste de cinéma, donc je sais pas trop c'est qui les mecs réputés, hormis celui qu'il y avait avec Ben Affleck. Avec qu'il a bossé sur Argo, sinon tous les autres scénaristes, généralement, je les connais pas trop, quoi.
Non, mais même sans les connaître, tu peux voir les travaux qu'ils ont fait avant. En l'occurrence, Christina Hodson, elle a fait un film. Voilà.
D'accord, ouais, ok. Ensuite, on a eu deux scènes supplémentaires pour Suicide Squad dévoilées. J'ai pas regardé, j'attends vraiment de voir la version étendue, entre guillemets. Vous avez regardé, t'as regardé toi, Spectra?
Non, 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 j'ai pas regardé. Alors, si jamais j'ai la motivation, je pense que je me ferai le film en version intégrale, mais je vais pas regarder les scènes avant.
Ouais. Ok, et ensuite on a Ciaran Innes, donc de Game of Thrones, donc je sais plus qui c'est, qui avait incarné Steppenwolf dans le film Justice League. J'avais su qui c'était, il jouait quel perso dans GOT?
Dans GOT, il faisait
Ah, le père de.
Mance Rider, le roi des Sauvageons.
Ah ouais, d'accord, ok. Ah moi j'étais pas du tout dans le truc, ok. Ouais, un gros barbare quoi.
Un gros barbare,
Pas
non,
tant
parce
que ça,
que,
pas tant que
ouais.
ça dans Game of Thrones. Non, 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 c'était plutôt, il était assez âgé par rapport aux autres barbares, justement.
C'est pas le roux en fait, c'était le brun là.
Ouais.
Ah ouais, ok, ouais, d'accord, ok.
Bon, il reste plus civilisé qu'un
Ouais.
Lannister. Hein.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ok, très bien. Vous avez autre chose à rajouter sur le cinéma ou on passe au comics VF?
On peut passer aux comics VF.
Alors Cédric, c'est à toi.
Ah ouais, alors Urban nous a fait quelques annonces pour 2017. La première qui est vraiment super, je trouve, c'est Greg Rucka présente Wonder Woman tome 1, qui sortira le 10 février pour la modique somme de 22,50 €. Et dedans, on retrouvera la mini Iketea, qu'il avait lancée juste avant de récupérer le personnage en régulier. Et puis après, donc les premiers numéros qu'il avait écrits, les numéros 195 à 201. Donc c'était le début des années 2000, hein. C'est une super série. Pas raté.
Très bien, je
On
pense que je le
enchaîne.
prendrai ça.
Ah ouais, non, ça vraiment c'est un immanquable. C'est à l'époque Wonder Woman était ambassadrice pour Temeshira à New York.
D'accord.
Et la mini-série Iketea, c'était un
Avec
affrontement
Batman.
avec Batman, ouais.
Ouais. J'ai vu l'histoire vite fait là, en quelques lignes, ça a l'air intéressant le concept.
Ouais, c'est une bonne mini, hein. C'est une
Il y a
très
une
bonne mini.
fille au milieu, c'est ça, et les deux, ils essaient de s'en occuper, c'est ça?
C'est une fille qui a commis un crime. Batman essaie de l'arrêter, mais elle prend refuge dans l'ambassade justement de Wonder Woman à New York, et Wonder Woman a promis de la protéger, quels que soient les crimes qu'elle a pu commettre avant. Donc voilà, donc c'est un affrontement entre la justice incarnée par Batman et l'honneur incarné par Wonder Woman.
D'accord. Ça a l'air intéressant.
C'est une bonne mini. On enchaîne avec Dark Knight Last Crusade qui sortira le 27 janvier. Et là, moi, je ne conseille pas parce que c'est pour 14 euros. Et alors, c'est une très bonne histoire, mais c'est une histoire qui fait une cinquantaine de pages seulement, donc je trouve ça un peu cher.
D'accord.
C'est un spin-off de la série Dark Knight 3 par Frank Miller.
D'accord.
Si je me souviens bien, c'est dessiné par Romita Junior.
Ah oui, je vois, je vois.
C'est sur le Joker.
D'accord.
On revient un peu sur ce qui s'est passé avec Jason Todd, non? C'est pas
Ouais,
ça?
c'est exactement
Ouais.
ça, ouais. Ensuite, on a Dark Knight, une histoire vraie, qui sortira le 3 février 2017, aussi pour 14 euros. Donc c'est plus long, c'est dans la lignée des Earth One, c'est le même format.
C'est
C'était
pas. C'est
sorti chez
ouais.
Vertigo.
C'est Paul Dini, non?
C'est Paul Dini, ouais.
Ouais, c'est
Je l'ai pas
la.
lu encore, moi, donc je sais pas ce que ça vaut. J'en ai lu beaucoup de bien, mais je l'ai pas encore lu moi-même.
Ça revient sur sur l'agression qu'a subi Paul Dini.
C'est ça, ouais.
Ouais.
Je crois que le Batman n'est qu'un prétexte dans cette histoire, hein. C'est plus
Ouais,
une histoire personnelle.
c'est ce que j'avais vu. Ouais. Ensuite, il y a Batman Empereur Pingouin le 3 février pour 17,50 €. Ça, je crois qu'en fait, c'est un arc de Detective Comics New 52, non?
C'est ça, les
Ouais, tout
numéros
à fait,
13 à
ouais.
18, scénarisés par John Neumann et dessinés par Fabok. Fabok qui arrivait sur le titre, et donc qui était déjà excellent à l'époque. L'arc est pas mal, hein. C'est une petite histoire sympa.
D'accord.
Ouais, c'est plutôt cool, Empereur Pingouin. Surtout que Detective Comics à cette époque-là, c'était quand même pas la panacée. Les man avaient fait un truc plutôt cool et effectivement, au niveau de la rétine, ça fait plaisir. Fabok est un bon niveau. Batman, ça lui va bien.
Alors on enchaîne avec Wonder Woman par George Pérez. Alors là c'est du classique de chez classique. Le premier tome sortira le 17 mars pour 35 euros. Alors je sais pas combien d'épisodes il y aura, mais vu le prix, à mon avis, un petit paquet.
Ouais.
Et là donc ça se situe en 1987 de mémoire. Donc c'est le relaunch de Wonder Woman après ce qui lui était arrivé dans Crisis on Infinite Earth. George Pérez, il en avait fait une déesse très proche des dieux grecs à l'époque. Donc assez différent de ce qu'on a actuellement. Ou de ce qu'on a eu dans les New 52. Non, ça se rapproche un peu de ce qu'a fait Azzarello dans les New 52. Mais
D'accord,
voilà.
ok. Beaucoup, pas mal de mythologie, ouais. Pas vraiment, pas un
C'est
truc de
ça.
super-héros, quoi. D'accord.
Mais
Ça vaut le coup?
excellente série, vraiment une des meilleures séries qui existent dans l'univers DC, hein, pour moi.
Ensuite, on a Superman, le Reign de Savage, le 3 mars 2017. Ça, je crois qu'en fait, c'est un arc pareil de la série. Putain.
De la
C'est un.
série DCU, ouais.
Superman et Action Comics, c'est vraiment la fin des New 52. Moi, j'ai trouvé ça assez mauvais.
Ouais.
Je recommande pas l'achat de ce tome-là. En plus, c'est assez cher, 28 euros. Mais ça faisait un crossover entre plusieurs séries. Il y avait Superman, Wonder Woman aussi dedans, si je me souviens bien.
Ouais, il y a moyen.
Enfin, de toute façon, Superman sur la fin, ce n'était que des crossovers. Ouais, c'est sur la période DCU, moi aussi, je déconseille vivement cet achat.
Et pour finir, on a Justice League Adventure, donc c'est inspiré de la série animée, un peu comme les Batman Adventure et Superman Adventure, et ça sortira le 24 mars 2017, pour les plus jeunes ou pas en fait. Enfin, moi je sais que ça m'attire pas.
Non, c'est vraiment pour un jeune public, mais c'est pas
D'accord.
cher, c'est 10 euros.
Ouais. Alors on va passer aux News Comics VO. Donc on a un crossover entre Batman 66 et Wonder Woman 77 par Jeff Parker qui se prépare. Par contre, j'ai pas la date. Je sais pas si vous l'avez.
Non, je ne sais pas.
Ok,
Non plus.
aucune idée. On a appris qu'il y aurait donc deux nouvelles mini-séries également. Et donc il y aurait The Odyssey of the Amazon par Kevin Grevioux, qui s'est occupé de New Warrior et Underworld, et dessiné par Ryan Benjamin. Ça sort le 18 janvier. Et une note, donc la deuxième mini-série que je parlais, c'est The Fall and Rise of Captain Atom par le scénariste Kerry Bates et Greg Wiseman. Alors je les connais pas, vous savez ce qu'ils ont écrit ces gens-là?
Non, je les connais pas, moi.
Ok.
Non, moi non plus.
Et dessiné par Will Conrad, bah, lui il est un peu plus connu. Donc ouais, apparemment ils vont essayer de réintégrer Captain Atom, parce que je pense que c'est dans la continuité Rebirth, ça non?
Oui, probablement, mais en fait, c'est la politique de DC là sur de lancer plein de mini-séries sur des personnages un peu plus secondaires. Donc, on a eu Hawkman là récemment, on en
Ouais.
parlera plus tard. Il y a aussi Deadman qui a eu sa mini-série qui est plutôt sympa.
Qui est pas fini en plus, je crois.
Ouais.
Ouais.
Et donc là, ils en lancent d'autres. C'est plutôt pas mal de leur lancer, voir l'intérêt qu'ont ces personnages secondaires et voir si ça vaut le coup de lancer une série après régulière.
c'est vrai que c'est mieux de faire ça que de lancer une régulière et de l'annuler au bout de 6 numéros. Ensuite, donc, la série Super Son, donc, qui était un peu teasée dans les derniers numéros de Superman. Donc, on aura Tomasi au scénario et George Jimenez au dessin. Et donc, ça débarque le 2 novembre. Ça a déjà débarqué, alors?
Et c'est déjà ça? Non, ta news,
non.
elle est
ouais, ce
pas à
sera
jour
pour
parce
février,
que...
je crois.
Ouais, ça a été repoussé, ouais.
Ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. Ça a été repoussé, ouais. Ok. Et c'est bien Tomasi au scénario. Donc, du coup, ben, on comprend qu'il en parle dans Superman, en fin de compte.
Ah, il fait plus qu'en parler, hein.
Ouais. J'ai pas encore lu les deux numéros consacrés aux deux enfants, mais j'ai hâte de les lire. Ensuite, on a appris donc que Snyder et Capullo ils seront aux commandes de l'event de l'été 2017 chez DC, mais il n'y a pas plus d'informations pour l'instant.
Si ce n'est que ce sera centré sur Batman, hein, comme on pouvait s'y attendre.
Ouais, c'est sûr qu'en mettant ces deux-là, il y a de grandes chances que ça parte sur ça, ouais. Ensuite, on a appris, donc grâce aux sollicitations, que le Lobo Prime New 52 va redébarquer. Et donc là, il sera dans le titre Justice League of America. Donc le titre Justice League of America qui sera lancé après l'event Justice League Suicide Squad. Donc ça, je crois que l'event, il est annoncé pour décembre, il me semble.
Ouais, pour la fin de l'année, ouais, ça va aller assez vite. Et écrit par Joshua Williamson, l'event. Alors je sais pas par contre qui sera au scénario de Justice League of America. Je sais pas si c'est toujours Hitch.
C'est Steve Orlando.
Non, c'est ça, c'est Steve Orlando, ouais.
Bonne nouvelle. Bye bye Hitch.
Ouais. Hitch, ben, il reste sur Justice League classique en fait.
Ah, mais ben, je lis pas ce truc là.
Moi je pense que je vais pas tarder à arrêter en fin de compte. Ensuite, on a appris donc le décès de Steve Dillon, je sais pas comment vous prononcez. Il est mort de quoi, ils l'ont dit ou pas?
D'une longue maladie.
Ah, mais
laquelle
okay.
Je sais pas, mais ça humait un peu le cancer. Ou...
Donc, qui était dessinateur de Preacher, de Punisher aussi également, dans ses plus gros travaux. Mm.
Avec Garth Ennis, ils étaient super potes. Il était très pote aussi avec Warren Ellis.
Ouais.
Il a aussi, notamment chez DC, fait pas mal d'épisodes de Hellblazer au début des années 90.
Ouais. Donc, bon, ouais, grosse perte pour l'industrie du comic book. Ensuite, dans les autres news, donc, on m'a appris que... Alors, c'est quoi ce bordel? Donc, DC et l'ONU vont publier un comics Wonder Woman. Et on a appris donc que Wonder Woman est devenue l'ambassadrice pour l'égalité des femmes. Ça de nommer une ambassadrice sur un truc, comment dire, fictif? Sur un truc de... Où est-ce que je veux dire?
Tu peux reformuler.
Apparemment, donc l'ONU, ils l'ont choisi comme ambassadrice de l'ONU, Wonder Woman.
Ouais.
Et jusqu'à maintenant, les ambassadeurs, ils ont déjà fait ça sur des personnages fictifs. Généralement, c'est toujours des gens, non?
Sur des personnages fictifs, il me semble pas.
Là, c'est plus un symbole, en fin de compte.
Là, j'avoue, je sais pas. Mais c'est clairement un symbole, oui. Puis,
Bah, du coup, ça va faire pas mal de pub pour le film. C'est pas mal pour DC. Mais après, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Mais enfin, bon. Vous avez un avis là-dessus?
Déjà eu quelques articles assez incendiaires et lapidaires sur le fait que ce soit Wonder Woman. Avec des arguments tels que sa tenue, des choses comme ça. Enfin,
c'est
passionnant.
Ouais, voilà, ok. Ouais. Ok, et ensuite donc Klaus Johnson, donc l'encreur de DK3, pense qu'il y aura bien un jour DK4 et DK5 si Frank Miller est toujours aussi motivé pour le faire.
Ouais, puis s'il est toujours vivant aussi, accessoirement, parce qu'il n'aspire pas non plus à la forme, hein, Frankie. Ouais,
ça va un peu mieux apparemment ces derniers temps. Après, bon, est-ce que c'est une bonne chose, je sais pas. Moi, j'aime pas du tout DK3. Donc,
J'ai pas lu.
Ah, j'ai lu que le premier chapitre, j'ai pas aimé non plus. Donc... C'était bien de s'arrêter à Dark Knight, ça suffit.
Moi j'ai lu que Dark Knight en fait.
Ouais. Ben, c'est bien, arrête-toi là.
Et ensuite donc on apprend que Philip Tan deviendra le dessinateur de Hellblazer en février, et je crois que le premier numéro de son arc ça va se passer à Paris en plus.
On verra la Tour Eiffel.
Il y a moyen qu'on voit la Tour Eiffel, ouais. Ouais, c'est même sûr et certain je pense.
Ce sera à peu près dans le même quartier que l'Arc de Triomphe, tout ça.
Ok, bon ben c'est terminé pour les news. On va passer aux news comics VF. Non, aux review comics VF, pardon. Je suis fatigué. Donc on va commencer par Checkmate. Vous l'avez lu ou il y a que moi qui l'ai lu?
Je l'ai pas lu, moi. Je pense que je vais me faire offrir ça pour Noël.
Moi j'ai lu des épisodes de Checkmate à l'époque, mais j'ai très peu de souvenirs. J'attends la réédition VO qui pour une fois arrivera après la VF, donc ce sera en janvier pour la VO.
D'accord. Bah moi je l'ai pas fini honnêtement. Le truc il est costaud, en plus ça parle énormément. Mais donc en fait c'est une histoire qui se passe juste après Infinite Crisis et donc qui reforme Checkmate et cette fois-ci elle est placée sous l'égide de l'ONU si je dis pas de conneries. Et donc, il y a pas mal de personnages, ouais, on va dire secondaires, et des personnages emblématiques. Donc, il y a Amanda Waller qui dirige l'équipe avec un autre personnage, je me rappelle plus qui c'est. Ensuite, on trouve Sacha Bordeaux, donc un personnage qui a été vu dans Batman, il me semble, et également dans Infinite Crisis. Il y a le
Sacha
deuxième.
Bordeaux, c'était la garde du corps de Bruce Wayne,
Voilà,
si je me souviens bien.
c'est tout à fait ça, ouais. Il y a elle, il y a le premier Green Lantern qui fait partie de l'équipe. Il y a Mister Terrifique. Donc voilà, c'est pas mal de personnages secondaires quoi. Là où j'en suis, j'ai croisé à un moment donné, il me semble que dans le tome il y a Nightwing qui débarque avec les Outsiders, mais j'en suis pas encore là. Bah, c'est une série. Enfin, moi Greg Rucka, j'avais jamais rien lu de lui, mais c'est assez, il est assez monstrueux le mec. L'histoire elle est vachement intéressante, donc c'est de l'espionnage, il y a pas mal de twists, des complots et encore des complots et encore des complots. Et c'est hyper intéressant à lire. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment intelligent. Donc je conseille vraiment à tous de l'acheter quoi. C'est vraiment une bonne lecture. Mais après, encore une fois, ça se lit pas en 5 minutes quoi. Faut vraiment lire ça à tête reposée parce que ça parle beaucoup. Donc honnêtement, moi c'est mon coup de cœur je crois qu'il est sorti en octobre. Hein. Il est sorti pendant le courant mois octobre. Donc c'est vraiment une bonne lecture que je conseille à tout le monde pour les gens qui ont envie d'étendre leur culture d'ici. Donc j'ai lu ça, enfin je suis en train de lire ça, c'est cool. Par contre j'ai acheté Flash tome 5, vous l'avez lu?
Ça va pas.
C'est les Flash des New 52?
Ouais.
Ah ouais, j'ai lu ça, ouais, bah c'est Venditti, hein.
Ah non, alors en fait
Ah non,
non.
c'est la fin de Buccellato, le tome 5?
Alors en fait c'est des épisodes, on va dire, fill-in entre le run de Buccellato et de Manapool et le run de Venditti en fait. Donc en fait, là, t'as un annual qu'ils ont mis, donc Flash Green Lantern. Franchement, c'est nul.
Ah oui, je me rappelle de celui-là, c'est enfantin, hein.
C'est enfantin, c'est pas beau. C'est débile en fait. Franchement, c'est nul. Donc on nous raconte vite fait. Mais vraiment, en fait, c'est une histoire qui se passe entre les deux personnages. Et en quelques pages, on nous explique leur première rencontre. Donc franchement, c'est nul du début à la fin.
Ah,
L'épisode...
c'est vraiment anecdotique, hein. Ils n'auraient
Ouais.
jamais dû le mettre dans le tome, ça.
Ouais. Il n'y a que la couverture, du coup ils ont pris la couverture de l'annuel pour la mettre sur la couverture du bouquin. Donc la couverture elle est magnifique, c'est le seul truc de fou on va dire. Donc cet épisode-là il est nul. Et après on bascule sur un autre épisode dessiné par je sais plus qui. Donc c'est encore un autre style, c'est pareil, c'est un épisode fill-in sur un épisode. C'est en un épisode, donc Flash doit attraper un mec, enfin une meuf en l'occurrence, qui vole, donc vu qu'il peut pas voler. Donc du coup il cherche une solution pour arrêter la fameuse criminelle. Pareil, ça a aucun intérêt. Et après là, on a deux trois épisodes donc qui sont scénarisés par contre par Buccellato avant de partir. Et au dessin, on a Patrick Hirscher. Et là, c'est un peu plus intéressant, mais c'est pas non plus fou quoi. Donc il y a un espèce de fantôme qui rôde à Central City, et donc on nous fait croire qu'il y a des liens avec, il pourrait y avoir des liens entre le fantôme du criminel et la mort de la mère de Barry en fait. Donc tout le monde sait qu'en fin de compte, non, y a rien. Donc en fait, c'est une intrigue un peu superficielle. Mais ça reste quand même intéressant à lire. Mais sinon, le tome est très fin. Et ouais, à moins que vous fassiez vraiment la collection, si vous n'êtes pas complétiste, à la rigueur, achetez même pas celui-là, passez directement au tome 6, quoi. Parce que là, vous allez vraiment rien apprendre de fou dessus, quoi. Donc voilà, le Flash tome 5 était pas fou. Et comme je disais tout à l'heure, par contre, je vous conseille donc le Checkmate qui est vraiment une grosse tuerie. Vous avez des choses à rajouter, les amis, sur ça?
Non, j'ai rien. Putain, ça fait un bail que j'ai pas lu un truc en VF.
Je conseillerais d'arrêter Flash avec le tome 4, et si jamais vous avez pris le tome 5, arrêtez-vous là, parce que de toute façon après c'est nul.
Bah ouais, après Venditti, le problème c'est qu'il a des bonnes idées, des bons concepts, mais après il fait trop traîner en longueur, quoi. C'est ça en fait le souci.
La lecture en TP sera peut-être plus sympathique du coup, ouais. En tout
Ouais,
cas,
c'est.
enfin, la fin de son run, la toute fin des New 52, c'est une catastrophe, ça c'est indéfendable. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques bonnes histoires entre-temps, mais trop longues, ouais, comme tu disais.
Et sur Checkmate, t'as des bribes, t'as des souvenirs qui te reviennent ou pas du tout?
Non, non, là, comme je te disais, j'attends vraiment la réédition pour le relire.
D'accord. Ok, bon ben on va finir avec les reviews comics VO, donc je pense le plus gros du podcast, parce que on a lu, même si c'est vous qui allez surtout parler, pas mal de trucs ce mois-ci. Donc on va commencer par All-Star Batman 3 et 4. Donc Spectra, c'est à toi.
Alors je vais pas faire la review numéro par numéro du coup du 3 et du 4 parce que ça reste à peu près la même chose que dans le 1 et le 2 en fait. Batman est toujours en prise avec double face, à vouloir le guérir, à essayer de l'emmener dans un endroit qui prétexte un sacré road trip où double face complique largement la tâche en envoyant un bon paquet de tueurs pour empêcher cette guérison. Donc on croise une galerie de vilains assez impressionnante, on s'attarde un peu sur KG Beast. C'est extrêmement violent, assez fun. C'est le festival des gadgets de Batman aussi, s'en prend vraiment alors plein la tronche. On a quelques ellipses où on voit un petit peu le passé de Bruce Wayne enfant avec Harvey Dent. Et ça termine toujours par une histoire, par un backup sur Duke Thomas, qui est dessiné par Declan Shalvey. J'apprécie toujours All-Star Batman. Ça va pas révolutionner le monde du comics, mais c'est vrai que je continue surtout pour le trait de Romita Junior. En fait, je trouve que les numéros sont vraiment magnifiques. Et voilà, c'est plutôt fun, assez décomplexé, mais voilà.
D'accord, très bien. Toi, tu Cédric, tu lis pas cette série?
Si, je les ai vus. J'ai
Ah.
l'avis exactement contraire à celui de Spectra.
Ouais.
Je déteste le trait de Romita sur All-Star Batman. Je trouve qu'il se foule vraiment pas et ça se voit. Et je trouve le scénario vraiment fainéant. Comme tu le disais, Spectra, c'est la même histoire dans l'issue 1, 2, 3 et 4. Moi, l'issue 4, j'en peux plus, j'arrête la série.
D'accord, ok. Vas-y, continue Cédric sur Batman 10 et 11, que tu n'as pas trop kiffé en plus.
Scénarisé par Tom King et Michael Ranin. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi ce que j'aime et ce que j'aime pas. Déjà, donc, avec l'issue numéro 9, on avait le début d'un nouvel arc qui s'appelle I Am Suicide, dans lequel Bruce Wayne doit essayer de retrouver à tout prix Psycho Pirate, qu'on avait vu dans le premier arc. Et Psycho Pirate est le seul qui peut guérir Gotham Girl, qui a été, mince, comment dire? Elle est névrotique en fait, due à une attaque justement du psychopérate. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un méchant qui possède un masque qui permet de projeter des émotions tout autour de lui. Et donc Gotham Girl, elle est devenue hyper émotive et limite maladif. Donc du coup, Bruce doit absolument essayer de la guérir. Et pour ça, il faut qu'il retrouve ce vilain. Et ce vilain s'est réfugié chez Bane. Donc Bruce va monter une Suicide Squad pour aller essayer de traquer Bane. Pour récupérer donc Psycho Pirate mais Bane c'est la menace directe de cet arc, mais c'est la menace indirecte en l'occurrence, puisque la vraie menace de tout le run de King s'arrête donc ce fameux Psycho Pirate. Donc tout ça c'est assez intéressant, ça fait une trame vraiment riche avec un méchant qui est vraiment qui est pas très utilisé dans l'univers DC, c'est un vieux méchant hein, qui date des années 60 et c'est
Ouais,
plutôt cool
mais
de le faire revenir.
ouais, dans Crisis, il était important quand même dans Crisis.
Ouais, mais il revient, hein, il revient de temps en temps. Il était dans Blackest Night, de
Ah, je me
mémoire,
rappelle pas.
il était dans Infinite Crisis aussi. Il revient régulièrement, mais c'est pas un vilain qui est
Oui, c'est
affilié
clair.
à
C'est clair.
un héros spécifique. Du coup, on le voit pas
C'est
beaucoup.
clair. C'est vrai.
Mais alors, ce que je reproche à Tom King, c'est que la trame est bien. Et l'exécution est catastrophique. Chaque épisode, je me prends la tête à deux mains en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'est l'épisode 10 où donc Batman affronte
Ouais,
Bane
j'ai pas compris moi. Ouais.
casse le dos de Batman et le met dans la prison dans laquelle il a grandi lui-même. Et Batman donc s'échappe de cette prison-là en donnant des coups de poing dans le mur, en faisant quatre trous dans un mur. Il met ses quatre membres dedans et se remet le dos lui-même avant de pouvoir s'échapper. Et là, c'était tellement what the fuck. Enfin, je veux bien qu'on est dans le comics et qu'il faut croire à l'impossible, mais là, c'est pas possible. Quand on a lu Nightfall en plus, et quand on sait comment Batman se remet son dos cassé après sa première rencontre avec Bane, tu peux pas lire ça. C'est qu'un exemple, hein. Dans tous les numéros, il y a des choses qui vont pas, où c'est complètement n'importe quoi.
Moi j'ai bien aimé le 10, j'ai pas tout saisi mais j'ai bien aimé la narration et quand la personne qui parle, vous avez capté directement qui c'est qui parlait depuis le début ou vous pensez que c'était quelqu'un d'autre? Quand Batman il est enfermé, il y a quelqu'un qui parle en fait, qui raconte l'histoire du début à la fin, vous pensez que c'était qui parlait? Tu découvres à la fin en fait qui c'est qui parle. C'est moi qui suis con ou vous avez capté directement?
Honnêtement, je m'en souviens plus.
Moi non plus du coup. Je me
Ben en
suis pas
fait,
posé la question en fait.
la personne qui raconte l'histoire, en fait, c'est Catwoman en gros.
Ah,
Oui, Catwoman, qui est
oui.
aussi, j'en ai pas parlé, qui est aussi un personnage hyper important dans cet arc. Oui.
Et vous.
Il redéfinit complètement Catwoman, d'ailleurs.
Je l'ai pas lu le 11 encore. Apparemment, c'est là-dedans. Mais dans le 10, vous aviez capté pendant tout le long que c'était Catwoman qui parle en fait? Ou c'est comment vous l'avez découvert à la fin? Moi, je pensais que c'était Bane qui parlait pendant tout l'épisode.
Et je crois que c'était déjà le cas dans le 9. Je dis peut-être une bêtise, ça fait un petit moment que je les ai lus maintenant, mais je ne me souviens plus.
Spectra, tu t'en rappelles?
Je t'avouerais que je m'étais pas pris la. Je m'étais pas vraiment posé la question, il me semblait que c'était Catwoman, mais.
C'était clair pour toi, quoi. Ben moi, c'est juste à la fin, quand ils l'ont montré, que je me suis rendu compte que c'était elle. Je croyais que c'était Bane qui racontait le truc pendant tout le
Non,
long
je
du truc.
crois. Oui, effectivement, je crois que dans le 9, oui, je pensais que c'était Bane qui racontait tout ça.
Ok. Donc toi, Cédric, tu kiffes pas trop, il y a des trucs que t'aimes pas dans sa façon de faire. Toi, t'es
Alors
Spectra,
après, je
ouais.
sais pas, peut-être qu'en lecture TP, l'ensemble du run de King prendra plus forme, mais en lecture single, j'ai vraiment beaucoup de mal, ouais.
Moi perso, j'ai lu Night of the Machin là, les monstres énormes là. Ça m'a pas passionné. Mais à part ça, hormis ça, tout le reste pour l'instant du run, je le trouve vraiment cool. Je trouve ça plus épique qu'avec Snyder en fait. On n'a pas toujours les mêmes personnages, les mêmes ennemis. Là en plus, il y a plus de cohésion. On voit plein de personnages DC qui apparaissent dans le run. Donc moi pour l'instant, le Batman, je le suis. Il me manque plus que le 11 à lire, mais pour l'instant, je kiffe bien.
Ouais, c'est vrai
Spectra?
que c'est
Ouais,
plutôt
pardon.
cool, excuse-moi, hein, Spectra, mais
Vas-y, je
c'est
t'en
plutôt
prie.
cool que qu'il n'utilise pas le Joker
Ouais.
ou les méchants dont on a eu l'habitude pendant 5 ans avec Snyder. Là, il utilise vraiment que des méchants qu'on n'a pas vus du tout pendant 5 ans.
Il y a beaucoup de personnages, ça tourne pas qu'autour de Batman. Voilà, là il y a la Suicide Squad qui est en plein milieu, il fait souvent appel à d'autres personnes. Je crois qu'on a vu la Justice League à un moment donné aussi dans Batman, quand il
Ouais.
affrontait Gotham et Gotham Girl. Donc moi ça j'aime bien en fait. C'est ce qui me plaît au titre, que je trouvais pas souvent dans le Batman de Snyder en fin de compte. Spectra?
Moi j'aime bien Batman, mais c'est toujours une lecture que je suis content de retrouver. Par contre, je commence vraiment à tiquer sur la narration de King, quoi. Il y a des gimmicks qui me gênent de plus en plus. Les dialogues sont, enfin, la narration est extrêmement répétitive. C'est voulu, hein, c'est son style, mais du coup, je trouve que ça se lit extrêmement vite et c'est un peu frustrant quoi quand tu viens de t'enfiler enfin quand tu viens de payer ton numéro de Batman quoi, ça se lit en 5 minutes.
Ouais, c'est sûr.
Et ça c'est ouais c'est quand même assez je vois pas trop des fois où il veut en venir avec cette narration et même en TP ça risque d'être un peu lourd quoi.
Moi, honnêtement, je pense que je la ferai cette série en VF quand elle sortira chez
Ouais.
Urban. Ouais, pour l'instant, je kiffe. En plus, je pense que ça va aussi faire le lien avec le crossover Justice League Suicide Squad. Vu qu'il y a Amanda Waller au milieu. On l'a vu dans quelques épisodes au début là du run. Donc voilà.
Mais après, il semble quand tu lis pour l'instant les débuts de King, t'as l'impression qu'il sait quand même où il va, qu'il a plein de choses de prévues, donc
Ouais.
c'est plutôt rassurant. Puis ça reste quand même mieux ce que pouvait produire Snyder depuis Death of the Family, donc.
Ouais, tu sens que King, il a vraiment un plan, oui, comme tu disais, sur le très long terme, alors que Snyder, il faisait arc par arc, qui n'avait absolument aucun lien entre eux, ça lui était égal, parce qu'il savait pas s'il allait continuer à la fin de chaque arc. Alors que là, Tom King, on sent qu'il est là pour un moment, et qu'il a une idée, qu'il veut aller au bout, avec des arcs qui tournent autour de cette idée-là. Donc de ce côté-là, c'est plutôt intéressant.
On va poursuivre Cédric avec Nightwing 7 et 8. J'ai pas commencé cette série, moi. Je crois que j'ai vu du Glory Birth.
Ah, c'est pas moi, c'est Spectra.
Ah oui, pardon, c'est Spectra, ouais. Ah oui, putain, je m'ai lu, ouais.
Alors Nightwing 7 et 8, donc c'est un petit arc, c'est Rise of the Raptor, donc Raptor qui était devenu un peu le mentor de Nightwing sur les premiers numéros et qui lui a bien mis à l'envers à la fin du dernier acte du dernier arc. Pardon. Donc du coup, Nightwing va confronter Raptor et en apprendre plus sur les origines de ce Raptor et notamment les liens qu'il peut avoir avec le passé de Dick Grayson et notamment avec ses parents. Tu sens un peu les grosses ficelles, hein, c'est un petit peu facile, mais je trouve que la lecture reste quand même agréable. Nightwing, pour moi, c'est une valeur sûre du Rebirth. Après, maintenant, j'attends vraiment l'arc qui va se passer à Bloodhaven, où Tim Celia aura peut-être un peu plus de liberté, sera peut-être un peu moins introductif. Donc voilà. Mais Nightwing, ouais, j'ai quand même bien aimé, même si c'était un peu facile sur les révélations de qui est Raptor.
Cédric?
Ouais, je partage l'avis de Spectra. C'est une des séries correctes de DC en ce moment, mais cet arc-là est moyen. Voilà, donc j'attends le suivant.
Ok. Alors, on va passer donc maintenant à Detective Comics 943 et 944, Spectra.
Alors, Detective Comics, eh ben, j'ai bien aimé Detective Comics 943 et 944. Donc, c'est l'arc qui s'appelle The Victim Syndicate, qui suit donc l'event Night of the Monster Men, où l'équipe se remet difficilement de la perte d'un de leurs membres qu'ils pensent décédé. Et nous, lecteurs, nous savons bien que non. Du coup, il lui trouve un remplaçant, la personne de Luc, c'est Luc Fox, hein,
C'est ça.
qui est devenu une espèce d'Iron Man, de Tony Stark, de l'univers DC. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Et ils font leur première confrontation donc avec ces victimes syndiquées qui sont des victimes collatérales de Batman. Et voilà, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Il y a une bonne dynamique dans le groupe, le personnage de Batman est un peu en retrait, on voit pas mal Catwoman qui, je trouve, qui pète assez la classe quand même là-dedans, donc j'ai...
Batwoman, pas Catwoman.
Ah oui, pardon, ouais, j'ai fait une contraction avec Kate Kane. Donc non, franchement, Detective Comics, je trouve que c'est une bonne série aussi de la Bat Family. C'est assez surprenant à la vue de l'auteur. Je pensais pas que James Tynion Ford pourrait... fournir une qualité de récit comme ça sur la durée. Donc, je retrouverai cette série avec plaisir.
Ouais, moi j'aime bien aussi, c'est assez fun. Pareil, il est pas tout seul, il est en groupe, c'est une série en équipe. Pour l'instant, hormis donc comme je disais Night of the machin là, pour l'instant ça m'a pas déçu comme série. Le premier arc était cool et celui-là aussi il est super intéressant. À voir comment ça évolue et à voir comment comment dire la disparition d'un personnage. J'espère qu'ils vont rapidement en reparler quand même ici ou ailleurs, mais que ça reste pas comme ça pendant super longtemps.
Non, ce sera sûrement ici, hein. Je pense que c'est un des plans de K. James Tynion Ford pour la série, ouais. C'est le futur de ce
Ouais.
personnage-là, ouais.
Mais après, vu que c'est une intrigue globale de Rebirth, que t'as des personnages qui apparaissent un petit peu de partout, ça arrive aussi dans le personnage, là, on l'a vu dans Action Comics aussi, non?
Ouais.
Bah, on le voit
Ouais.
dans beaucoup de séries, dans Titan, dans
Voilà.
Flash.
On l'a vu dans Flash?
Attends,
Je suis en
Titan
retard.
sur Flash, le dernier épisode, il me semble. Ah, j'ai un doute, tu mets le doute.
Je suis à la bourre sur Flash. Mais bon, de toute façon, on aura des nouvelles, peut-être pas là, mais bon, en tout cas, j'espère rapidement.
On l'avait même vu, il me semble, dans le premier épisode de Batman, si je ne me trompe pas.
Peut-être, faudrait
Avec
que je regarde.
avec l'avion.
Ah, peut-être, faudrait que je regarde, ouais. Ouais.
Et l'ajout de Clayface, hein, en tout cas dans l'équipe, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, quoi.
Ouais, la caution comique un petit peu, ouais. C'est vrai que le personnage est bon aussi, ouais. Ouais, non, pour l'instant, je suis pas déçu. Ensuite, on va passer à Action Comics 965, 66 et 67. Cédric.
Alors, nouvel arc qui est centré au début sur Lois Lane. Les deux premiers épisodes, Lois Lane qui est retour au Daily Planet. Et donc, elle reprend le rôle qu'avait l'ancienne Lois de l'univers du 52. Et donc, elle se fait passer pour elle. Hein, donc, je rappelle, hein, c'est la Lois Lane dont on parle là. C'est celle de avant les New 52 qui est revenue dans l'univers à la fin du DCU. Et donc, elle prend la place de l'ancienne Lois qui est décédée dans la première issue de Superwoman. Et
C'est ça.
du coup, alors il y a une différence d'âge entre les deux Lois Lane, mais là, elle a subi un petit coup de lifting parce qu'elle est dessinée plus jeune, donc du coup ça passe, ni vu ni connu. Mais bon, ça c'est un détail. Et le but de cet arc, c'est Lois Lane qui enquête pour essayer justement de comprendre ce qui s'est passé avec l'autre Lois Lane, celle des New 52. Et en parallèle, Jurgens, il bosse aussi sur la montée en puissance des pouvoirs de John, et avec Batman comme professeur. On a des très bonnes scènes, je trouve, justement, où on a l'éclosion des pouvoirs de John. C'est vrai qu'ils sont vraiment bien bien amenés. Et enfin, le dernier épisode, le 967, on a un nouvel arc qui commence, qui s'appelle Man of Steel, cet arc-là sera plutôt centré sur Lex Luthor, hein, qui est aussi un autre Superman dans cette série. Il y a plusieurs Superman, il y a plusieurs Clark Kent, il y a plusieurs Superman. Et l'interaction qu'il peut avoir avec Clark, qui ne supporte pas l'idée d'avoir un Luthor avec des pouvoirs. J'aime beaucoup cette série. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sous-intrigues.
Ouais,
Et
l'arc d'avant, excuse-moi, je te coupe l'arc pour savoir qui c'était le Clark Kent juste avant, et en fin de compte, on n'a pas de réponse, ça fait quand même super chier, quoi.
Et ben c'est exactement la même chose avec ces épisodes-là. En fait, il lance plein de questions et on n'a jamais de réponse. Et du coup, on a le sentiment qu'à chaque épisode, il se passe pas grand-chose et qu'on a un peu lu l'épisode pour rien. Donc là, c'est vraiment une série qui est, moi, je trouve chouette, mais qui se lira super bien en TP.
Je suis pas à jour sur le dernier, j'avais lu les deux premiers sur Lois Lane, notamment il y a l'apparition donc de Superwoman aussi dans l'épisode. Ouais, c'est vraiment cool. Et on voit ils essaient de refaire tout coller, vu que du coup ben, ils ont viré en gros ben, le Superman et la Lois Lane des New 52 qui fonctionnaient pas. Donc ils sont en train de les remplacer petit à petit. C'est vrai qu'après ce serait bien qu'ils commencent à faire avancer les sous-intrigues. Parce que le Clark là, franchement, je sais pas comment il va retomber sur ses pattes pour nous dire qui c'est en fin de compte. Parce que j'ai aucune idée moi. T'as une idée, Cédric?
Non, non, je sais pas. Et du coup, on espérait l'apprendre justement dans l'arc précédent, et c'était un arc presque pour rien parce que, bah, on savait juste qu'il n'avait pas de pouvoir, quoi. C'est tout ce qu'on a appris avec cet arc-là.
En tout cas, c'est encore voilà. Parmi les titres que je lis, moi, je trouve que c'est toujours un super titre. Et malgré, on parlait aussi de l'apparition en bimensuel, pour l'instant, ces titres-là que j'ai dit, moi, je suis pas déçu en fin de compte. Même si celle-là, elle avance pas des masses.
Ouais, si c'était en mensuel, ce serait un vrai vrai problème. Mais le fait qu'on l'ait deux fois dans le mois, ça permet une lecture un peu plus lente, justement, de pas être trop frustré. Bah, mais alors que Tyone Ford en Detective Comics, justement, je trouve
Il
qu'il arrive.
bombarde,
Ah
ouais.
ouais, carrément. Hein.
Il bombarde, ouais, c'est clair. Le rythme n'est pas le même, ouais, c'est clair. Mais en même temps, voilà, Action Comics, on n'a pas les réponses, mais je sens pas que la narration, elle est freinée, en fait. Je sens pas que le mec, il ralentit les récits.
Il a lancé beaucoup de sous-intrigues, donc je pense que ça va exploser d'un coup, mais il est temps que ça arrive, quoi, parce que
Ouais,
là
c'est clair.
ça fait un moment qu'on s'ennuie un petit peu. Mais c'est bien écrit, hein, Dan Jurgens, si c'est écrit Superman, hein. Au contraire de Tomasi.
Ah, je suis pas d'accord. Bah, vas-y, Cédric, Superman 9, 10 et 11. C'est lequel, la couverture, il y a les deux dessus? C'est la 10 ou la 11? Où il y a Superman, Batman et les deux enfants?
Je crois que c'est le 11.
Ok. Oh, bah, j'ai lu que le 9 et le 10. Vas-y, on t'écoute.
Bah, je vais surtout parler du 10 et du 11. Donc on a Peter Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin. Et donc l'arc qui s'appelle Au nom du Père, qui est centré pas sur Superman, mais bien sur la rencontre entre John, donc le fils de Clark, et Damian, le fils de Bruce, qui donc les deux pères vont mettre les fils ensemble et les forcer à être dans une situation un peu difficile pour voir comment ils vont se débrouiller, voir s'ils vont réussir à travailler en équipe et quels sont leurs comportements vis-à-vis de l'autre. Et puis évidemment, ils ont des caractères assez dissemblables. Donc c'est censé être drôle, c'est censé être intéressant à voir. Moi, ça m'a pas du tout plu. Là, je trouve que la série est pleine de bons sentiments, ça dégouline dans tous les sens, et de la guimauve partout. Tout est prévisible, tout est cliché. Je me suis ennuyé sur ces deux épisodes à un point. Et en fait, pour ces deux issues de Superman, donc Superman, c'est une des séries que j'attends le plus à chaque fois. On n'en servit qu'à lancer la nouvelle série Super Sons. Que
Ouais, mais
je n'irai
après.
pas voir parce que pour le coup c'est pas du tout ma came, quoi.
Ouais, mais après, Superman, c'est un peu une série familiale en fin de compte. Donc, moi, je trouve pas que ça fasse tâche qui développe le personnage de John en fin de compte.
Ouais, mais moi autant j'étais vraiment emballé par la série qu'il y avait à la fin du DCU sur la famille, évidemment j'ai oublié le titre.
Oui, c'est clair
Voilà,
que.
c'est ça, qui était vraiment pour le coup une série familiale. Et on retrouve cette ambiance-là dans Action Comics parce qu'il y a aussi cette ambiance familiale dans Action Comics, alors que dans Superman, c'est pas une ambiance familiale, c'est une ambiance enfantine. J'ai
Ben moi,
l'impression de lire un
ouais.
shonen, en fait.
Moi, je trouve que c'est la dimension familiale est plus exploitée dans Superman que dans Action Comics en fin de compte. Et mais après, ça me choque pas. Moi, je trouve que c'est bien écrit en fait. Pourtant, les trucs clichés et tout, je déteste, hein. Mais moi, la lecture, ça me choque pas en fait. Je trouve que
Tu
je trouve
vois,
que ça
il
sonne juste.
n'y a pas de famille, en l'occurrence, on voit jamais Loïs. On l'a vu dans le premier arc, mais là, dans cet arc-là, on la voit jamais. On ne voit que les enfants, et puis on voit beaucoup Damian aussi, qui est un personnage, là, en tout cas écrit par Tomasi, moi que j'aime pas.
Je l'ai pas lu encore. Moi, je crois que je suis resté à l'épisode de la fête foraine. Je crois que c'est le 9.
Ouais, c'est le. Non, non, c'est peut-être même le 8, je crois. Le 9, c'est sur l'île aux dinosaures.
Ah, l'île de dinosaures. Ah, bah, l'île de dinosaures, je l'ai lu, c'était pas fou. Mais sinon, non. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, ça me choque pas, quoi. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça. Je dis le ton, je trouve que ça sonne juste. Après avoir, hein, faut que je dise le 10 et le 11. Bon, toi, c'est pas trop ta cam, alors. Du coup,
Après, ouais, c'est ça,
ouais.
je dis pas que c'est mal fait, je dis que c'est pas ma came.
D'accord. Ok, on va passer à toi, Spectra, Midnighter et Apollo 1 et 2.
Ouais, donc Le retour de Midnighter et Apollo, toujours écrit par Steve Orlando et dessiné par Blanco ce coup-ci. Donc Midnighter et Apollo se sont retrouvés, ils sont à nouveau en couple, hein, ça reste dans la continuité de ce qui a été écrit pendant le DCU. Avec toujours en toile de fond donc la némésis de Midnighter qui est Bendix, qui cherche à se débarrasser du couple. Et pour ce faire, par l'intermédiaire d'un démon, Apollo va être envoyé en enfer. Et du coup, Midnighter va chercher à sauver Apollo et donc va décider de partir en enfer. Voilà. C'est de moins bonne qualité ce qui a pu être écrit avant. Pourtant, c'était déjà Steve Orlando. Niveau graphique aussi, Blanco, c'est quand même moins bien que. Je sais plus, c'était qui? Akko, le dessinateur,
Ouais, c'est
Cédric.
ça,
Je
ouais,
crois que
c'est
c'est
à
ça.
quoi.
Ouais. Il y a moins d'inventivité que ce soit dans l'histoire ou dans la découpe des cases. Donc voilà, l'intrigue est sympa, sympa sans plus. C'est. Ouais. Tout part un petit peu forcé, je trouve. C'est pas, je suis un peu déçu. Je continuerai à la suivre, hein. De toute façon, c'est une mini en 5 ou 6, je crois, mais voilà quoi, c'est pas fantastique. Si vous n'avez pas lu la série précédente avant, c'est pas nécessaire de se plonger dans cette mini.
Très bien. On repasse sur toi, Cédric, pour Flash 9 et 10. Putain, je suis en retard sur
Ah,
Flash.
mais t'as tort, hein, c'est mon coup de cœur,
Ah
DC toujours. Ah, ouais. Joshua Williamson au scénario. Par contre, on a deux dessinateurs différents pour ces deux épisodes. Donc, on a Jorge Corona et ensuite on a Felipe Watanabe. Mais ça c'est pas gênant. Ils ont un style différent, mais les deux passent bien. Donc, on avait le premier arc qui était Godspeed, qui s'est terminé et
ouais.
qui était vraiment un super arc. Et là, en fait, on est dans des épisodes de transition. On va assister à l'entraînement de Wally West, comme étant le nouveau Kid Flash.
Et le Wally West, le Carlouche, le Black.
Ouais,
Ah, ok.
le jeune. Mais
Ok.
l'autre Wally va aussi arriver. Il va aussi intervenir dans cet
Oui, oui,
épisode.
oui. J'avais vu la couverture. C'est Kid Flash of Two World ou je sais pas quoi là.
C'est ça, voilà.
Ah, fallait que je le lise celui-là. Je suis à la bourre. Je t'écoute.
Et le problème en fait que j'ai avec l'épisode 9, c'est que il sert de lien avec la série Titan. Donc avec l'intervention de Wally West, le vieux Wally West. Mais
Ouais.
le problème, c'est que la série Titan, l'arc dans lequel qui est fait mention dans cet épisode, il n'est pas encore terminé. Donc on s'est fait spoiler comme des gros porcs toute la fin de la série Titan. Mais bon, ça c'est un détail pour la série Flash. Mais c'est plutôt deux bons épisodes. L'épisode 10 qui est aussi centré sur Kid Flash. Par contre, là, on sent que c'est la fin justement du Kid Flash dans la série Flash, parce qu'il va partir dans les New Titans, dans les Teen Titans. Ah, je vais y arriver. Dans les Teen
Titan.
Titans, voilà.
Ouais.
Et donc là, on a un nouveau vilain qui apparaît, un vilain bien débile, qui s'appelle Papercut et qui envoie des étoiles de ninja en papier. Et
Oh putain.
alors ça paraît débile, mais en fait, c'est un épisode vraiment fun, justement, où le méchant est complètement débile et Barry va faire en sorte que ce soit Wally qui résolve la solution. Et ça va être la première fois que Wally va exploiter ses pouvoirs pour contrer un vilain. Et tu vois, c'est encore une série centrée sur les enfants. Dans ce mois-ci, on a eu quasiment que ça entre Superman et Action Comics et Flash. Mais là, je trouve que Kid Flash, c'est le meilleur de tous les enfants, c'est celui qui est le mieux exploité.
D'accord.
De tous les enfants de l'univers actuel DC, c'est mon favori. Je trouve qu'il est bien écrit, ça passe très bien. Et à la fin du numéro, là, la révélation d'un nouveau méchant qui va lancer le prochain arc qui sera beaucoup plus ambitieux et centré sur Barry Allen. Un méchant très 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 connu de l'univers DC, pour le coup, un peu dans le même style que le Psycho-Pirate, un méchant qu'on voit régulièrement.
Il y avait pas un méchant là dans Flash, c'était une sorte de magicien?
Ouais, ben, non, c'était dans Titan, ça.
Ah, parce que ça c'était nul à chier, hein.
Ah bah
Abracadabra là,
moi j'ai
catastrophe,
bien
putain.
aimé, et justement la révélation de ce qui se passe avec Abracadabra était faite dans Flash numéro 9, alors qu'on l'a toujours pas vu dans Titan.
D'accord. Ah putain, moi Titan, j'en suis au 3 là. Oh là là, mais il est nul ce mec. Enfin, je pense
Ah
qu'à un
mais
moment
ça,
donné.
c'est un vieux méchant,
Ouais, mais
mais
à un moment
c'est
donné,
un peu vieilli, quoi.
on est en 2016 et à un moment donné, il y a des mecs, faut plus les utiliser, quoi. Ou tu leur changes leur nom, quoi. Parce que Abracadabra, c'est rien que le nom déjà, c'est dégueulasse. Et enfin même après je le trouve ridicule, kitsch le mec. Mais il m'avait semblé avoir vu un match d'ici dans Flash. Alors peut-être que j'hallucine totalement. Mais moi, je sais plus où j'en suis. Je crois que je suis au 5 ou au 6. Je suis après l'épisode avec Godspeed, en fait.
J'ai pas souvenir d'un magicien, mais peut-être qu'il y a eu mention d'un autre personnage.
Ouais. Je regarde, je me rappelle plus du tout.
Mais Abracadabra, c'est dans Titan, ouais.
Ouais, ça je me rappelle.
T'as peut-être vu la couverture aussi du numéro 10 où la nouvelle menace, en fait, le personnage ressemble fortement un peu à un magicien avec son chapeau de forme.
Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Enfin, là, j'allais voir ça, ouais. T'as peut-être raison. Bon, en tout cas, c'est ton coup de cœur, Cédric.
Ah ouais, clairement, Flash. Et d'ailleurs, je suis vraiment content que Joshua Williamson écrive le prochain crossover Justice League Suicide Squad, parce que j'aimais déjà les séries qu'il écrivait en indé. Là, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur Flash, donc c'est un auteur que je vais suivre.
Qui est en train de prendre de l'importance chez DC, hein, vu qu'ils le mettent sur l'event. Il y a moyen qu'il finisse sur un gros titre, parce que Flash, ça reste quand même, c'est pas non plus un titre énorme, quoi. C'est pas Batman, Superman ou Justice League.
Ouais, ce serait peut-être bien qu'il remplace Hitch sur Justice League, ouais.
Ouais, carrément, ouais, voilà, ouais carrément. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais.
Flash, ça reste quand même un des gros titres de DC à l'heure actuelle, parce que c'est un des titres qui fait quand même souvent référence au Watchmen, à la menace invisible qui plane sur le.
À l'intrigue Rebirth en général, mais est-ce qu'au niveau des ventes, il pèse? Moi, ça fait un bail que j'ai plus vu le tableau des ventes. Je pense pas que ce soit dans le top 10. Hein.
Bah, non, c'est pas dans le top 10, mais il fait beaucoup plus que ce qu'il faisait avant des launch Rebirth.
Ouais. Hein. Ah ouais?
Il fait partie des meilleures ventes d'essai encore. Ouais.
D'accord, je savais pas. Ah ok, bon, c'est cool.
Ouais, c'est en tout cas une très bonne série. L'écriture de Williamson est vraiment nickel. Et puis dans le numéro 10, là, le trait de Watanabe est vraiment, vraiment appréciable. Je trouve que c'est le seul pour l'instant qui a bien réussi à faire honneur à Iris West, qui pour l'instant était, je trouvais, assez dégueulasse.
Ouais, je suis d'accord.
Une espèce de rombière catholique, dans les clichés, quoi. Elle était. Jeune, mais dans des fringues de vieux, ça faisait un peu bizarre.
Bah, j'avais lu un des derniers épisodes de Flash que j'ai lu, c'était pas une comment il s'appelle le dessinateur? Di Gian Domenico, là. C'était pas lui qui dessinait, c'était un autre. Et effectivement, Iris West, elle était juste dégueulasse, quoi. Ok. Bon, faut que je rattrape mon retard. Ok, donc Spectrum, on reste avec toi pour Wonder Woman 8 à 10.
Alors Wonder Woman 8 à 10, du coup, donc on a le numéro 8 qui est un numéro spécial qui va se centrer sur le docteur Barbara Ann Minerva qui par la suite deviendra Cheetah. Donc on la suit dans son enfance et dans sa jeunesse, dans ses pérégrinations pour trouver l'île de Themyscira. C'est dessiné par Evely. Et c'est vraiment c'est joli, l'histoire est plutôt cool, ça fait bien le lien entre les deux arcs actuellement qu'on suit chez Wonder Woman. Le numéro était vraiment vraiment sympa, j'ai trouvé, je connaissais pas tellement de personnages de Cheetah, mais je trouve que Ruka la rend vraiment intéressante et vraiment attachante, quoi. Elle a pris une belle ampleur depuis Rebirth, donc le numéro 8 était vraiment cool. Ensuite, on passe au numéro 9, donc, qui est la suite de l'arc The Lies, où Steve Trevor et Diana retrouvent Sacha Bordeaux, font un petit peu le débrief de la mission qui a été réglée, et où les deux personnages se rapprochent, où on mentionne un petit peu le Superman New 52, notamment la relation que Diana avait avec lui. Et voilà, il se passe pas grand chose dans ce numéro, si ce n'est le petit cliffhanger de fin. Et ouais, cet arc-là est vraiment sympa. Toujours dessiné incroyablement bien par Liam Sharp.
Cédric, tu l'as lu ou pas?
Ouais, alors c'est j'adore cet arc, c'est seulement l'épisode 9 par contre m'a un peu déçu parce que il se passe pas grand chose dans cet épisode, mis à part un début de romance. Entre Diana et j'ai oublié son nom Steve Trevor, mais ouais, c'est un numéro important, je pense, parce que il faut recontextualiser la vie amoureuse de Diana, mais voilà, c'est pas le meilleur épisode de l'arc.
Bah, il fait écho du coup avec l'épisode 10, c'est ça qui est bien foutu, t'as deux arcs différents mais qui se rejoignent vraiment, ou finalement dans l'épisode 10, donc on est sur la partie Year One, où Wonder Woman vient d'arriver sur le continent américain et fait une sortie dans un centre commercial, donc avec Steve Trevor et je ne sais plus quel autre agent, et où justement on a les débuts de la romance entre les deux personnages qui est plutôt bien écrite. On a les premières interventions publiques de Wonder Woman. Donc pareil, ce numéro plutôt bien écrit, toujours assez joli, hein, dessiné par Nicolas Scott. Ça, Wonder Woman par Rucka, franchement, c'est vraiment une tuerie. Moi, je crois que c'est ce que je préfère pour l'instant chez DC Comics avec Flash.
Ouais, je suis du même avis. Ouais, l'épisode 10 était vraiment superbe, excellent. Rien à dire. Le dessin sublime. Nicolas Scott, je crois que je l'avais jamais vu dessiner des scènes d'action aussi bien. Vraiment, super numéro.
Puis on a de la romance qui est vraiment bien écrite, vraiment bien foutue. C'est pas cucu gnangnan, c'est plutôt pas mal. Faudrait pas que tous les épisodes non plus soient comme ça, mais en tout cas Rucka promet de belles choses pour l'avenir du personnage.
On va passer à 10 of Hawkman 1 et 2, Cédric.
Ouais, je vais surtout parler du 1 pour éviter de spoiler parce que c'est une mini en 6 et c'est une série qui vaut vraiment le coup. Donc autant en révéler assez peu. Donc elle est écrite par Marc Andreyko et Aaron Lopestri au dessin. Les dessins sont sublimes. Et la série s'appelle Death of Hawkman, mais c'est pas du tout une série qui est centrée sur Hawkman. Elle est centrée sur Adam Strange et Hawkman. Et d'ailleurs, c'était ce premier épisode, on va voir assez peu Hawkman. La série commence où on voit Hawkman qui c'est assez classique, ça commence par la fin maintenant. On a vu ça très souvent, notamment avec Scott Snyder, où tu vois un Hawkman qui est criblé de flèches lors d'une guerre entre Ran et Thanagar. Ouais. Quelle surprise. Et puis ensuite on a un flashback sur Adam Strange et on voit la double vie qu'il mène en tant que super-héros sur Ran et en tant qu'humain assez pathétique sur Terre. Et un incident va le bloquer sur Terre, il va tout faire pour essayer de retourner sur Ran. Et c'est là que les choses vont se compliquer aussi sur Ran en parallèle. Donc c'est probablement pas une coïncidence. Alors que c'est une série vraiment que je conseille. Elle est fun, elle est très jolie. C'est une excellente mini. Et si vous ne connaissez pas bien ces personnages-là, c'est vraiment le moment de les découvrir. Voilà. D'avoir lu ça.
Ok, ben moi ça m'intéresse pas du tout. Si elle est après. Ben vas-y, finis Cédric, Trinity 2 et 3.
Ouais, alors là très très vite parce que j'ai pas eu le temps de les relire. Donc Francis Manapul au scénario et au dessin pour le 2, puis au 3 il a pas eu le temps de le dessiner, donc c'est Kleyman qui l'a fait. En gros, Trinity c'est une série de Justice League sans Brian Hitch. Donc c'est une série où il y a les trois personnages donc de la Trinité qui sont plutôt bien écrits. Après ça reste une série assez moyenne dans l'univers DC où les Wonder Woman et Batman essayent de faire connaissance avec le nouveau Superman et ils vont faire face à un vilain assez classique qui leur met face à leur démon du passé. Ça se lit sans déplaisir. Ça vaut surtout le coup pour le dessin de Manapul qui est exceptionnel. Et la mise en page aussi, il est vraiment très fort pour ça. Ouais. Ceux qui ont lu Flash, des New 52 savent de quoi je parle.
Après, c'est pas non plus un très grand scénariste.
Non, bah c'est un peu le problème, voilà, c'est ça. C'est que je comprends pas qu'on donne une série aussi importante parce que Trinity, pour le coup, c'est les trois personnages principaux de DC. Il y aurait moyen de faire un truc vraiment sympa. Il y a eu des très bonnes séries Trinity par le passé. Je pense à Busiek ou à Matt Wagner. Et là, donner ça à Manapul qui a pas scénarisé grand-chose dans sa vie, ouais, bon. Mais bon, c'est très beau.
Ok, vous avez autre chose à rajouter, les gars, concernant les comics VO?
Non, non, non,
Moi,
c'est...
je voudrais peut-être parler vite fait des séries de la nouvelle gamme. Alors, je sais, Young Animals. Donc, il y a eu quatre séries qui ont été lancées. Il y a eu la Doom Patrol, il y a eu Shade, The Changing Men, il y a eu Clive
Clive
Carson,
Carson,
The
Cybernetic
Cybernetic Eye, et il y en a
Eye.
une quatrième, donc je me souviens plus du titre.
Ouais. Mother Panic.
Voilà, qui se passe dans l'univers de Batman. Et sur les quatre, il y en a trois que j'ai trouvé vraiment intéressantes. La Doom Patrol est vraiment sympa. Mother Panic est vraiment cool. Et Shade aussi, vraiment psychédélique et complètement barré, ça m'a vraiment plu. Kev Carson, j'ai pas trop apprécié le premier numéro, donc je sais pas si je continuerai, mais en tout cas, j'attendais pas grand-chose de ces séries-là et je dois reconnaître que je suis plutôt emballé.
D'accord, ok.
Donc c'est vraiment parallèle à ce qui se passe dans l'univers DC classique, à part Mother Panic, où on voit un petit peu Batman, mais ça se fait un univers cohérent entre les quatre. Qui sera peut-être rattaché à l'univers DC plus tard. La Doom Patrol a un passé assez important dans l'univers DC, par exemple. Donc, c'est pas impossible qu'on la retrouve. Hein.
Ok, t'as quelque chose à rajouter, Spectra?
Non, rien du tout.
Ben, on va passer à la... Qu'est-ce qu'on a fait? la section qu'est-ce qu'on a fait, comme Fabien l'avait nommé. Vas-y, Spectra, qu'est-ce que t'as fait de cool ce mois-ci?
Qu'est-ce que j'ai fait de cool ce mois-ci? C'est une bonne question. Alors tout d'abord, je me suis acheté le remaster de Skyrim.
Oh, le malade. Ah ouais, j'avais vu sur Facebook. Ouais.
Ah, ça y est, t'as décidé d'abandonner l'idée d'avoir une vie sociale.
Ouais, c'est ça, ouais, du coup, je me suis dit, allez, faute de trouver mieux chez les meufs, je vais m'acheter des jeux vidéo. Et
Là là.
alors, j'étais à fond, hein, quand je l'ai acheté, je l'ai remis dedans, et puis au bout de 2 heures, je me suis rappelé que j'avais quand même passé près de 400 heures dessus. Et en fait, ça m'a gonflé royalement, quoi. Surtout quand t'as connu The Witcher 3 avec des combats quand même assez nerveux, une histoire qui était quand même assez sombre et un peu plus élaboré dans l'écriture. Donc du coup, là, je suis dégoûté d'avoir claqué
Alors,
60 euros là-dedans, quoi.
moi je l'ai réinstallé sur Play 3, honnêtement. J'ai joué 10 minutes et ça m'a fait le même sentiment que toi, tu sais. Laisse tomber, reste dans la vraie vie, quoi. Et je l'ai désinstallé.
Non, mais là, je suis au fond avec ça. Donc peut-être que j'y replongerai. Hein, ça m'arrive régulièrement. Après, il est beau, hein, c'est sûr. Il y a une belle distance d'affichage. Mais bon, en fait, ça me saoule, quoi. J'y ai trop joué, je crois, à Skyrim. C'est pas possible. Sinon, pour rester dans les jeux vidéo, il y avait le N7 Day pour les connaisseurs de Mass Effect. Et à cette occasion-là, ils ont diffusé une vidéo du nouveau Mass Effect. Donc là, par contre, je suis à fond. Du coup, j'ai voulu brancher ma 360 pour me refaire une énième fois la trilogie Mass Effect. Sauf que ma 36 est morte. Donc voilà. Je crois que c'est un signe du destin pour que je retrouve une vie sociale.
Ouais.
Et sinon, côté lecture, je me suis fait l'intégralité là des Cantos d'Hyperion. C'est une série de bouquins écrits par Dan Simmons. C'est du space opéra et ouais, je me suis vraiment pris une bonne grosse claque, quoi. C'était la première fois que je lisais des récits de ce genre. J'ai trouvé ça vraiment vraiment magnifique,
Ah
vraiment
bah
cool.
t'as pas commencé par le plus mauvais, hein. Hyperion, c'est vraiment exceptionnel.
Oui, tout le monde me l'avait fortement conseillé ce truc-là, et enfin, franchement, c'est génial, quoi. Ça te fait voyager assez loin, puis t'en as pour 1500 pages, un truc comme ça, donc ça occupe pas mal.
Si t'as bien aimé Dan Simmons, je te conseille L'Échiquier du Mal, qui est excellent aussi.
Et ben là, pour l'instant, je me fais une petite session Philippe K. Dick, là, je vais lire Ubik, et puis après, ouais, je pense que je repartirai un peu sur du Dan Simmons.
Ubik, c'est différent, hein. Enfin, Philippe K. Dick, faut aimer la drogue, hein. Ça tombe bien.
J'ai aimé dans mon jeune temps, mais bon, ça devrait passer. Et sinon, côté série, du coup, pour rester dans un trip space opéra, là, je suis toujours dans une période un peu stellaire, donc j'ai maté la série de sci-fi The Expanse, enfin les 4 premiers épisodes.
Ah, ma série
Et
préférée de l'année.
bah, je trouve ça plutôt sympa, hein, pour l'instant. Au niveau des effets spéciaux et tout, je trouve que c'est pas tellement à la ramasse, quoi. Donc ça se laisse bien regarder.
Un
Donc
peu
voilà.
cheap au niveau des effets, mais justement, je trouve que la série, elle est riche du fait qu'elle n'abuse pas beaucoup des effets spéciaux, heureusement d'ailleurs, parce que je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, mais elle est
Non, mais
très, très bien écrite.
quand tu compares avec les séries genre Flash et compagnie, enfin là, tu te prends une claque, hein, en regardant The Expanse. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai terminé ta série préférée, Wally, que je t'avais conseillé, The Fall.
Oh
Il y a eu
là, ça y est, c'est fini enfin?
ça y est, c'est fini,
Ah bah
ouais.
alléluia, putain, 3 saisons pour choper le cum, c'est bon quoi.
Et ouais, enfin, franchement, la dernière saison, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment un summum au niveau de l'ambiance malsaine et de la folie du personnage. Donc voilà, The Fall que j'ai adoré. Si vous aimez les trucs lents, allez-y, foncez.
Ouais, et très lent alors, hein. Putain,
Très très
qu'est-ce
lent.
que c'est putain très très lent. Cédric, t'as fait quoi de beau?
Je réfléchis en jeu vidéo. Moi aussi, je suis à fond dans les jeux hyper récents. Donc, je joue à Shovel Knight.
C'est
Moi, je
quoi
suis.
ça?
Ah, c'est du rétro gaming, mais
Ah,
moderne. C'est
d'accord.
un nouveau jeu, mais façon 8 bits.
D'accord.
Donc, t'es un chevalier qui avance avec une pelle et tue les méchants à coups de pelle dans un univers façon Castlevania ou Mega Man
D'accord,
en
ok, je vois le
2D.
délire. Ok.
Donc, pas du tout dans le délire Skyrim ou The Witcher, moi. Sinon, j'ai commencé The Expanse, mais pas la série télé, mais le livre. Et on retrouve vraiment l'ambiance de la série, parce que à la base, c'est une série de bouquins. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 volumes en VO. Et non, c'est aussi bien que la série télé, donc je conseille aussi.
Et ça fait pas trop redite du coup quand
Et
t'as.
si, carrément. D'ailleurs,
Ah
c'est exactement les mêmes scènes. Du coup, j'ai hâte de finir le premier tome pour pouvoir attaquer le second et être un peu en avance sur la seconde saison de la série, quoi, qui arrive en février, je crois. Voilà. Sinon, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc je travaille.
d'accord. Moi ça va être rapide. Jeux vidéo, donc je joue à Battlefield 3 toujours. Je commence à avoir un bon niveau. Je commence à bien défoncer du monde là. Sinon, en série, j'avais commencé Westworld, on en avait parlé, je crois. C'est sorti quand Westworld?
Ils en sont à l'épisode 7 là.
Donc on en avait peut-être pas parlé, je sais pas. J'avais vu 15 minutes et j'ai coupé, donc faudrait que je m'y remette. Tout le monde me dit que c'est génial.
Moi j'ai pas aimé du tout, j'ai arrêté à l'épisode 3.
Ah ouais, d'accord.
Je trouve ça trop
Frédéric,
lent.
tu
Ah,
trouves
moi
ça trop lent?
ça me branche pas du tout, Westworld. J'ai même pas réussi encore à télécharger un épisode.
Sinon, hormis ça, je continue Flash, mais je vais pas tarder à arrêter parce que ça m'a gavé. Vraiment. Il se passe pas grand-chose. Ouais, y a pas de grosse idée, donc ça commence à me saouler, je vais arrêter. Walking Dead, ça a repris. Bon, là, je suis à fond. Il y a toujours que moi qui regarde.
Moi je les lis.
Et
Tu
pareil,
lis.
je les lis aussi.
Ok, donc là on en est sur l'intrigue avec Negan. Je dirais rien pour pas spoiler les gens qui n'ont pas vu, mais bon, gros premier épisode. Assez malsain. Je crois que c'est l'épisode le plus malsain depuis le début de la série. Et là, après ça s'est un peu calmé au niveau du rythme, et ça développe les personnages et les intrigues et compagnie. Pour moi ça tue toujours autant. Et après sinon, j'ai pas démarré de nouvelles séries quoi. Et
Et
après.
il y a Ezekiel là pour l'instant ou pas?
On voit Ezekiel, ouais.
Ça va, ça c'est bien retranscrit, ça fait pas trop ridicule en live.
Il y a un épisode sur lui, j'ai trouvé le personnage génial en fait.
Ah ouais.
Ouais, génial. En plus, ça fait vraiment le. Comment dire? C'est vraiment l'inverse total de Negan en fin de compte. Donc c'est super appréciable en fait. Ça fait un contre. Je sais pas c'est quoi le terme exact. Mais ouais, voilà, c'est. T'as Negan le gros psychopathe et t'as l'autre en face le mec on va dire entre guillemets pour l'instant du peu qu'on connaît adorable et hyper charismatique le tigre qu'il y a dans la BD il me semble
Oui.
on le voit ça choque pas c'est franchement non sur un épisode voilà moi le mec il m'a convaincu en un épisode quoi donc j'ai hâte de le revoir rapidement dans la série
Donc on aurait pu laisser un tigre à Wonder Woman.
Je pensais la même chose.
Mais après je sais pas elle avait un tigre elle avait jamais eu de tigre en fait Wonder Woman.
Dans le Golden Age, il me semble bien qu'elle avait un tigre à une
Ah
époque.
ouais, elle avait un tigre, alors aucune idée. Enfin voilà, là en tout cas, le personnage il tue. Après Negan, bon bah l'acteur il est monstrueux. Non, franchement, c'est. Pour l'instant, au bout de 4 épisodes de Walking Dead, c'est toujours aussi cool. Et voilà, après j'ai pas eu de. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu de grosse série qui a été lancée cette année pour l'instant. Enfin, de ce que j'ai vu. Donc niveau série, c'est assez calme quoi. Et après niveau comics, bah à part DC, ouais, j'ai rien lu d'autre quoi. Faut que je continue ma collection, comment ça s'appelle? Qu'il avait lancé Flo de Comic City.
Bliss.
Ouais, Bliss. J'avais acheté deux tomes là, les deux premiers qu'il avait sortis, et là il faut que je continue la collection
A sorti deux tomes là, il a sorti Archer and Armstrong en intégrale, qui est une
là.
très très bonne série, il a sorti Rail aussi en intégrale, moi c'est une série que j'aime pas trop, mais pour le coup t'as beaucoup de numéros pour pas cher. Hein.
Armstrong, j'avais lu en VF les scans, quelques épisodes, j'avais pas trouvé ça fou en fait. Par contre, j'avais acheté, comment ça s'appelle? Putain, les deux premiers titres qu'il a lancés là.
The Valiant et
Bloodshot
Bloodshot
et puis
Reborn.
The Valiant.
Voilà, donc Valiant, j'avais bien aimé, et Bloodshot Reborn, j'avais bien aimé, et j'avais acheté aussi. Putain, je vais y arriver.
Quantum and Woody?
Ouais, ça c'était cool aussi. Quantum and Woody, j'avais bien aimé.
Ouais, mais à la rentrée, il va sortir une intégrale de XO Manowar écrite par Venditti. Et si tu veux lire du bon Venditti, faudra lire ça. C'est une bonne série d'action. Et c'est la série qui lance l'univers Valiant.
D'accord.
Ça vaut le coup de la lire.
Ouais, c'est pas mal, XO Manowar.
Il a sorti Ninjak aussi, je crois.
Je l'ai acheté, Ninjak, du coup, tant qu'à faire de la pub pour Bliss. Ninjak, j'ai trouvé ça sympa, hein, franchement. J'aime bien, bien ce que fait Mankind hein, chez Valiant. Bah, Cédric a pas aimé Rail, mais moi, j'ai adoré. Je me suis fait l'intégrale en VO, là, jusqu'au dernier event 4001 AD, là. C'était vraiment génial.
J'ai lu que les deux premiers tomes en VO. Et en fait, c'est pas tant le scénario que je trouve vraiment bien, c'est plus le dessin qui est enfin, la palette graphique, qui est pas vraiment du dessin, avec lequel j'ai pas mal de difficultés, mais.
Ah, j'adore le trait de Clayton Crane, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique, quoi, ce qu'il fait.
Mais c'est particulier, hein.
Ouais. Mais chez Image, elle est sur une série Savior, là, avec McFarlane. Et
Ouais,
même sur des.
je l'ai lu aussi, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a sorti du comic. C'était une bonne série pourtant aussi, mais moi, j'aime pas du tout ce style-là de dessin.
Ok, bon ben vous avez autre chose à rajouter les amis?
Bah non, on a fait une bonne petite émission.
Ouais, une petite émission d'1 heure. Donc
Ouais.
on vous donne rendez-vous ben, dans 15 jours, hein, vu qu'on est à la bourre là, donc il y aura quand même une émission dans 15 jours avec Spectra, l'équipe habituelle, et donc Cédric reviendra de temps en temps ou un petit peu plus tard, à son envie, car il est toujours dans le crew. N'est-ce pas Cédric?
Puis pour vous consoler, il y aura le superbe accent anglais de Vinch.
Ouais, Vinch, après, ouais.
Ah,
C'est
ça
lâche.
manque, hein. Un Flashpoint sans Vinch, c'est pas vraiment un Flashpoint. Hein.
C'est vrai, mais apparemment, il devait être sûrement encore dans un petit repas de famille là avec beau-papa et belle-maman. Donc, on lui en veut pas. Il reviendra plus fort le mois prochain, dans 15 jours, pardon. On vous remercie et on vous dit à tous à très bientôt. Salut, salut!
Salut!
Salut!